Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons tout à l'heure parler avec Gilda Roy parce que vous savez que le grand événement de la journée, c'est la dernière, entre autres, de District 31. Vous avez sans doute écouté dans l'émission de mon collègue Paul Arcan des personnages qui sont venus raconter. En fait, les acteurs sont venus parler un peu de cette semaine qui a été beaucoup suivie, qu'il est et qu'il sera encore ce soir. Effectivement, c'est la dernière d'une saison qui a été haute et forte en rebondissement. Alors, nous, on fera bien attention de ne pas rien dévoiler, parce que moi, je ne l'ai pas vu depuis lundi. Alors, je vais regarder ça en rafale, comme chaque semaine à peu près. Vous me direz, vous aurez sans doute des questions pour Gilda Roy tout à l'heure. Très contente de recevoir le commandant Chiasson tout à l'heure. Également, en deuxième heure d'émission, je vais vous demander si vous avez déjà eu des problèmes avec de l'équipement électronique ou autre qui a pas fait long feu. Comme laveuse, sécheuse, n'importe quoi là, qui aujourd'hui est un appareil qui rend l'âme beaucoup plus tôt que prévu. On appelle ça l'obsolescence programmée. Et vous avez peut-être vu, mais il y a un projet de loi qui a été présenté ces derniers jours. On va discuter de ça pour voir un peu qu'est-ce qu'il en retourne. Mais en première heure d'émission, je vais vous proposer une discussion, je pense, qui est nécessaire sur les problèmes de santé mentale qu'on vit ici au Québec. Le fait qu'on n'ait pas beaucoup de... Ça, c'est, on le sait, hein? On n'a pas beaucoup de financement. Il faut se démener quand on a des problèmes nous-mêmes ou quand ce sont nos jeunes qui en ont. Il faut vraiment remuer la terre entière, j'allais dire, pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse faire un suivi, que ce soit ne serait-ce qu'un médecin, on en parlait l'autre jour, un médecin omnipraticien qui puisse vous référer en psychiatrie, où là, vous attendez avant de voir un psychiatre pendant des mois, quand ce n'est pas des années, c'est excessivement compliqué. Et évidemment, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la vie des gens qui sont concernés. Quand on pense, par exemple, au Québec, il y a un jeune sur cinq qui souffre de problèmes de santé mentale. Imaginez combien se retrouvent en détresse, en crise, à l'urgence, qu'on retourne chez eux sans qu'on ait pu intervenir, sans accompagnement, sans suivi. C'est un vrai, vrai, vrai problème. On va se poser une question aujourd'hui parce que mon invitée, une de mes invitées, Nathalie Renaud, qu'on avait déjà reçue il y a un petit moment, a décidé, elle, de prendre le taureau par les cornes. Nathalie est la mère d'une jeune femme qui souffrait de problèmes mentaux et qui a décidé de... En fait, cette mère a décidé de s'occuper de la cause. Sa fille est morte après une surdose de drogue. Nathalie est avec moi. Merci beaucoup d'être là.
Merci.
Vous savez que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce qu'on a tous de près ou de loin des gens autour de nous là, qui ont ce genre de problème. Vous êtes passé à travers, Nathalie, quelque chose d'épouvantable.
Oui, ça a duré pendant 6 années. Ça fait 8 mois exactement que Catherine a perdu la vie.
Racontez-moi un petit peu, pour ceux qui ne se souviennent plus de votre histoire, qu'est-ce qui s'est passé?
Catherine, elle avait 24 ans quand elle est décédée le 16 août dernier d'une surdose de cocaïne et de méthadone. Ça l'avait commencé vers l'âge de 18 ans. Là, elle avait vécu une peine d'amour, puis elle a commencé à consommer du cannabis. Puis elle était dans la faible majorité là, qui affecte au
qui est affectée par le
cannabis. Par le cannabis. Hein?
Et puis, elle a fait une psychose?
Oui, elle a fait une psychose. Et puis, c'est là que ça l'a déclenché, ses problèmes de maladie mentale. Et puis, elle a sombré dans d'autres drogues beaucoup plus dures. Et ça l'a accentué sa maladie. Puis, en fait, quand je suis venue la dernière fois en onde avec vous, j'avais su par le coroner l'examen toxicologique de quoi qu'elle était décédée exactement, parce que nous, on pensait que c'était du fentanyl, mais c'était pas ça. Mais la chose la plus importante,
c'était quoi, finalement?
C'est méthadone et cocaïne. Ouais. Mais la chose que j'ai retenue le plus, j'ai pas encore le rapport d'ailleurs, là, mais qu'est-ce qui m'a inquiétée, c'était le fait que dans ces dossiers médicaux, aucun diagnostic n'a été fait.
On ne l'a jamais diagnostiqué comme quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale.
Exactement.
Ouais. Donc, il n'y avait jamais eu de suivi de son cas?
Non.
De ce que vous en savez, est-ce qu'elle était allée à l'hôpital demander de l'aide?
Oui, elle l'a fait au mois de mai avant de décéder. Là, à la fin mai, elle était allée à Charlemagne pour dire qu'elle n'en pouvait plus de sa consommation d'héroïne, que ça lui faisait mal physiquement. Elle avait des palpitations. Puis elle a demandé de l'aide, puis on lui a remis une brochure avec un numéro de téléphone.
Une brochure?
Oui. C'est tout. Là, vous elle est décédée quelques semaines après.
Ouais. Vous avez décidé, vous, de mettre en ligne une pétition, justement, pour éviter que d'autres parents vivent le même drame que vous. Cette pétition-là vise quoi exactement? Qu'est-ce que vous aimeriez
qu'il arrive? En fait, c'est que, tu sais, dans les 8 derniers mois qu'on pensait, moi, je me suis liée beaucoup avec des professionnels de la santé ou Mme Couillard. J'ai rencontré aussi Dr. Kanamugé, qui était un psychiatre qui avait parlé à TVA dans la légalisation du cannabis. Je l'ai rencontré dans son bureau, moi, personnellement, pour dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux pour ma fille pour pas qu'elle finisse comme ça. Puis, il m'avait parlé de la notion de dangerosité dans la loi pour les personnes, tu sais, par rapport à la loi P38, là, qui n'est pas toujours bien compris par les gens. Puis, il avait parlé aussi des ordonnances de traitement. Mm-hmm. Que Catherine, elle aurait pu recevoir une ordonnance de traitement qui lui aurait permis peut-être de s'en sortir plus facilement.
En gros, là, ce que votre pétition demande, c'est qu'on puisse forcer quelqu'un qui a des troubles de santé mentale à suivre son traitement. Et ça, oui. Je trouvais que c'était intéressant parce qu'on commence à le dire depuis des années. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens en santé mentale qui disent c'est sûr que ça serait sans doute pour certaines personnes réfractaires à un traitement dont on sait qu'il leur fait du bien malgré tout. Il faudrait pouvoir intervenir auprès de ces personnes-là. Vous parlez de Mme Couillard, elle est justement avec nous. Lucie Couillard est directrice du Centre de soutien en santé mentale Montérégie. Merci beaucoup d'être là. Vous avez, vous aussi, une fille atteinte de schizophrénie grave. Vous aussi, vous dites qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de suivi, de soins, c'est vrai. La santé mentale, on le sait, hein, Lucie, c'est le parent pauvre au Québec là, de la santé.
Tout à fait. Je crois que présentement, on vit une période encore plus difficile. On entend de plus en plus de problèmes que les familles subissent, les enfants qui sont pas soignés. Moi, mon cas, c'est que Nathalie, elle était jeune, c'est arrivé à 14 ans. Puis, il y avait peu de services en pédopsychiatrie pour ma fille.
Vous dites ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé quand elle avait 14 ans exactement?
Mais, premièrement, elle voulait plus aller à l'école. Mm-hmm. Elle souffrait en silence. Puis elle ne voulait plus, elle s'isolait, elle ne voulait plus aller à l'école. Puis ce qui est arrivé, c'est que avant de la diagnostiquer, ça a pris plusieurs années.
Des années?
Des années, madame.
Est-ce qu'elle faisait des crises dès l'âge de 14 ans jusqu'à son diagnostic, plusieurs années plus tard? A-t-elle fait des crises? Est-ce que vous saviez, vous, que c'était quelque chose qui ressemblait à de la schizophrénie?
À cette époque-là, si on retourne...
C'était pas clair.
À cette époque-là, Nathalie, elle était très bonne à l'école. Puis le fait qu'elle ne voulait plus aller à l'école, eut l'allée du rocher, elle était brillante. Ouais. Moi, ça m'a comme bouleversée, mais elle cachait bien son jeu. Vous savez, encore, la maladie mentale, c'est tabou. Mm-hmm. Beaucoup de préjugés face à la maladie mentale, surtout la schizophrénie. On dit, oh, gars, eux autres. Là. Et moi, ça a pris du temps. Puis Nathalie, elle a fait une grave tentative de suicide. Elle a passé en dessous de 2 wagons de métro.
Oh, mon Dieu.
Oui. Puis, par grâce de Dieu, je ne sais pas trop, elle s'en est sortie. Mais c'est là que j'ai appris après 4 ans, 4-5 ans. Et même le...
Elle s'est jetée sous les rails de métro.
Oui, et puis à son sortie, elle était plusieurs mois à l'hôpital en psychiatrie de Royal Victoria. Elle était presque un an là. Et c'est là qu'on m'a appris que Nathalie, le diagnostic est tombé de schizophrénie. Et j'étais bouleversée. Puis quand je l'ai vue, elle m'a dit, « Maman, t'as rien à voir dans ça. C'est ma vie, c'est ma souffrance. Si tu savais comment je souffre. » Là, ça a été le début.
Elle avait quel âge à ce moment-là?
Elle avait 17 ans.
À 17 ans?
17 ans, oui.
Et quel âge a-t-elle aujourd'hui?
Aujourd'hui, elle a 43 ans. Il y a une forme de résilience qui s'installe. Elle est capable de bien exprimer ses besoins, tout ça. Mais encore, c'est difficile pour elle parce qu'il y a la personne atteinte de schizophrénie, c'est qu'elle souffre, c'est une maladie pernicieuse.
Des bouts qu'on connaît peu, hein, j'allais vous dire.
Voilà.
Ça fait quoi, un schizophrène? Est-ce que ça fait des crises, justement? Est-ce que c'est des crises de panique? Est-ce que c'est les exemples de schizophrénie qu'on peut avoir? Souvent, c'est dans le journal quand il y a quelqu'un qui a complètement dépassé les bornes puis qui a assassiné quelqu'un, qui a été violent. Ouais. C'est ça l'image, la schizophrénie qu'on a. Mais comment ça se vit au quotidien?
Lucie, c'est parce que la schizophrénie, c'est parce que vous avez plusieurs sortes de schizophrénie, plusieurs degrés aussi.
Vous, dans le cas de votre fille, c'est schizophrénie grave.
Persistante et sévère, oui, c'est très sévère. C'est parce que Nathalie n'a pas été soignée quand elle était jeune.
Mais est-elle on voit bien qu'elle a été dangereuse pour elle-même. Est-ce qu'elle pourrait l'être encore?
Du tout. Non. Aujourd'hui, elle accepte une forme de résilience, mais elle n'est plus du tout dangereuse.
Elle doit prendre des médicaments?
Voilà. Ouais. Voilà. Avant, comme la fille à Nathalie Renaud, Nathalie consommait de la drogue. Et même, il y a un psychiatre qui a dit, « Ben, tu reviendras quand tu voudras te faire soigner. » Et ma fille était psychotique, là, vous savez, beaucoup psychotique.
Tu reviendras quand tu voudras te faire soigner. Parce qu'il y a eu un moment où elle ne voulait pas prendre de médicaments.
Non, elle était itinérante à Montréal. Ça, ouais. Moi, je cherchais ma fille parce que ma fille, malheureusement, vu qu'elle voulait toujours se suicider, je l'ai mis à la DPJ. On appelait ça le centre de jeunesse à cette époque-là. Ouais. Puis elle se sauvait souvent. Puis on me rappelait et on me disait, ben, votre fille est partie.
Mais oui, la porte est ouverte.
La porte est ouverte, voilà.
Mm-hmm. La porte n'est pas fermée à clé, là. C'est pas une prison.
Mais ouais. Ouais. Vous savez, je suis en train d'écrire un livre sur ma vie et tout ce qui s'est passé.
Dans les dédales de la santé mentale.
Voilà, ouais. C'est ça. Mon livre va sortir l'année prochaine. Puis, vous savez, les familles souffrent beaucoup parce qu'on ne tient pas compte des familles encore aujourd'hui.
Cette pétition, évidemment, vous l'avez signée, Lucie Couillard, puisque vous êtes directrice d'un centre de soutien santé mentale en Montérégie et que vous travaillez depuis 25 ans en santé mentale, en plus d'avoir vécu de très près l'expérience de votre fille. Mais cette pétition, dans le fond, relance tout le débat là, sur l'ordonnance de traitement, ce qu'on appelle l'ordonnance de traitement, mais dans le fond, ce que ça veut dire, là, pour que tout le monde comprenne bien, c'est l'obligation qu'on pourrait se donner de dire à quelqu'un qui a un problème de santé mentale et qui refuse un traitement qui pourtant l'aiderait, on pourrait l'obliger à prendre des médicaments.
D'accord, mais sauf que depuis un an, en mars 2018, il s'est produit un genre de, vous savez, l'arrêt Jordan, l'arrêt Jordan, c'était JF contre l'hôpital Jean Talon. Et ce qui est arrivé, c'est que la personne ne voulait pas se faire soigner, même s'il y avait une ordonnance de traitement. Mm-hmm. Et la personne, elle a gagné sa cause. Mm-hmm. Et ça devient une jurisprudence.
Tout à fait.
Et fait que là, c'est...
Parce que les chartes des droits, puis on dit ne peut pas imposer à quelqu'un quelque chose
contre
qu'il veut
son gré.
Voilà. Et comment on s'en sort, Nathalie Renaud, avec cette pétition? Vous allez nous expliquer après la pause comment vous voyez ça, comment c'est possible d'intervenir vraiment directement. Parce que il y en a beaucoup de cas, malheureusement, qui se retrouvent dans les médias. Une fois qu'on a vu quelqu'un qui, justement, soit pétait sa coche, soit s'enlevait la vie. Il y a trop de gens qui s'enlèvent la vie parce que...
Il est souvent trop tard.
Exactement. On agit trop tard ou on est devant le fait accompli, malheureusement. Alors que, dans le cas de votre fille, vous allez nous le dire, si on l'avait, vous l'avez un peu dit déjà, si on l'avait suivi, si on l'avait encadré, si on lui avait donné une médication qui était constante et suivie, là encore, probablement.
Oui, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Catherine n'est pas tombée dans la drogue par choix, c'est la maladie qui l'a emmenée vers la drogue. Voilà. Fait que normalement, tous ces gens-là refusent les soins.
Ouais.
Mais ce n'est pas une raison pour pas les prendre en charge.
Tout à fait. On va revenir tout de suite après la pause. Je vais donner l'occasion à ceux qui nous écoutent et qui vivent la même chose. Si vous êtes touché par les témoignages de mes deux invités, ne vous gênez pas pour nous appeler, pour nous raconter un peu de votre histoire. 514-790-9850, sans frais partout au Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. On se demande s'il ne faudrait pas forcer quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale à suivre un traitement. Évidemment, on sait qu'il y a des chartes qui font en sorte que, en ce moment, ce n'est pas possible, mais pour le bien de la personne. Est-ce que ça serait pas salutaire, finalement? Dites-moi ce que vous en pensez tout de suite après ceci. Alors, on se demande, est-ce qu'on devrait forcer une personne qui a des troubles de santé mentale à suivre un traitement qui pourrait lui être bénéfique et qui éviterait peut-être d'arriver à commettre l'irréparable, soit à utiliser la violence contre cette personne ou à l'utiliser contre d'autres aussi. Comment évaluer le niveau de dangerosité ou de gravité d'une situation de santé mentale? C'est pas évident. Il y en a pas beaucoup de suivi. C'est extrêmement difficile. On va parler tout de suite à Richard, qui est une Montréalaise, mais qui nous parle de Val d'Or. Parce que Richard a dû aller à Val d'Or pour s'occuper de son fils de 29 ans qui a des problèmes de santé mentale et qui malheureusement a un enjeu de médicaments. Bonjour Richard.
Bonjour.
Racontez-moi un peu votre histoire.
Ben merci de me laisser raconter l'histoire un peu, puis bonjour à Nathalie parce qu'on
Allô,
se connaît.
Richard.
Écoutez, mon histoire, ça fait 10 ans depuis 2009 que je suis à me battre dans le système de santé mentale parce que mon enfant a commencé à avoir des problèmes de consommation de drogue, de cannabis, un peu comme Nathalie, et puis il était prédisposé à développer des psychoses. J'ai dû à plusieurs reprises aller chercher des ordonnances d'évaluation psychiatrique parce qu'à chaque fois j'allais devant à l'hôpital avec, puis les médecins il allait à l'hôpital, mais il le gardait pas. Et puis, quand j'ai été chercher l'ordonnance psychiatrique, ben ça a donné qu'ils l'ont gardé parce que, bon, il y avait des problèmes suicidaires et vraiment des problèmes de santé mentale. Puis, par la suite, il a fallu encore se représenter devant le tribunal pour rallonger son traitement à l'hôpital, qui a duré pendant 4 mois la première fois. Mm-hmm. Et avec le psychiatre, on est allé chercher des ordonnances d'autorisation de soins de traitement. Mais là, je vous fais un bref résumé, mais à travers ça, j'ai dû donner des coups de pied dans des portes à chaque fois parce que malheureusement, ils nous obligent, nous, les parents, à aller chercher ces fameuses ordonnances d'évaluation psychiatrique qui ne devraient pas être obligées d'être cherchées par nous parce que l'enfant, quand on va chercher ces ordonnances-là, il ne nous aime pas du tout. Fait que c'est le milieu psychiatrique, les médecins qui devraient aller chercher ces ordonnances-là.
Puis vous allez la chercher où? Êtes-vous outillé pour faire ça comme parent?
Bien, je l'étais à l'époque parce que j'ai travaillé dans le milieu juridique. Alors, j'ai été capable d'aller chercher des modèles sur Internet pour pouvoir préparer cette ordonnance-là, joindre des pièces justificatives de témoignages autour de moi, conversations que j'avais avec mon enfant, soit par texto ou par verbal.
Vous êtes obligé de monter un dossier, c'est ça que vous me dites.
Oui,
il y a imaginé, Richard, les gens là, qui sont démunis, là, qui ont pas les capacités, même pas les connaissances juridiques. Vous dites, moi, je viens du monde juridique, j'ai pu monter un dossier, mais la plupart des gens sont pas des juristes non plus. Là.
Non, ils sont démunis, ils sont pas capables de le faire. Fait qu'ils sont pris à même pas être capables d'aller chercher cette fameuse ordonnance-là. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'étais outillée pour le faire. Mais même encore, quand tu te présentes devant le juge, tu es obligé, le juge ordonne cette évaluation psychiatrique. Mais là, tu prends ton dossier, puis tu es obligé de te rendre au bureau de police avec ce dossier-là pour leur dire, mais là, vous allez l'arrêter, mon enfant, parce qu'il y a des problèmes de santé mentale et il doit être évalué. Puis la première fois de tout, en 2009, quand je suis allée voir les policiers, ils ne savaient même pas c'était quoi une ordonnance. Il a fallu que je leur explique quoi faire. Ça fait que c'est pas drôle, là. Puis on est rendu en 2019, puis ils connaissent plus ça parce que, bon, il y a eu une évolution. Mais je suis encore pris à aller chercher ces fameuses ordonnances-là pour que mon enfant, il soit encore hospitalisé pour se faire traiter. Puis c'est là que je m'en vais encore me battre pour aller chercher cette fameuse ordonnance-là pour qu'il soit évalué et qu'il y ait encore une autre autorisation de soins de traitement pour qu'il l'oblige à avoir des traitements pendant 2, puis là, maintenant, ils veulent mettre ça à 3 ans. Mais le tribunal devrait faire cette ordonnance-là automatiquement quand son traitement est terminé. Renouvelez-le, ce traitement-là. N'obligez pas les parents à retourner encore en cours pour le faire.
Incroyable. Il y a plein de questions là, qui viennent. D'abord, j'imagine que la relation avec son enfant, quand on est obligé d'aller devant un juge pour plaider l'ordonnance de traitement, l'obligation de traitement, qu'ensuite c'est la police qui débarque pour l'arrêter s'il veut pas, ça fait porter aux parents l'odieux du traitement. La responsabilité là, de faire appliquer ce traitement-là qui devrait sincèrement revenir aux médecins ou en tout cas au système médical.
En 2015, j'ai été obligée de faire un guet-apens à mon enfant pour l'amener dans un restaurant, appeler la police, demander à mon mari, va appeler la police pour qu'il vienne le chercher. Il criait, « Maman, maman, laisse-leur pas faire ça! »
Oh,
écoutez,
mon Dieu!
C'est comme si tu as ton enfant de 5 ans qui crie après, « Maman, viens me sauver! » C'est déchirant.
C'est arrivé la même chose, moi aussi.
Nathalie Renaud,
oui. Oui, elle a été violente à un moment donné, puis j'ai dû intervenir. La police est venue chez nous, se sont mis 4 policiers devant ma maison, avec tous les voisins dehors, puis ils étaient 4 pour la monoter, puis elle criait, « Maman, laisse-les pas faire ça, laisse-les pas voilà. faire ça. » C'est déchirant, puis quand ils l'embarquent dans l'ambulance, bien là, c'est nous, là, papa, maman, on est les méchants.
Mm-hmm.
Puis là, ça exact. Prend quelques temps avant qu'elle nous reparle, puis la seule chose qu'on veut, c'est l'aider.
Comment ça pourrait être fait autrement? Richard, avez-vous des suggestions?
Moi, je pense que si on réussit à comprendre dans ce système juridique-là et médical que quand l'enfant est malade, puis qu'il est à l'hôpital, puis que bon, il réussit à le traiter et arriver à le mettre, mettons, en bon état, mais de continuer après à le suivre. Parce qu'en 2000, là, je vous épargne l'année, je m'en rappelle plus, mm-hmm. Il était hospitalisé pendant 4 mois à Douglas. Il a fait partie d'un regroupement qui s'appelle le PEP, qui a été fantastique, qui nous ont soutenus pendant 2 ans de temps,
mm-hmm.
avec un psychiatre, avec un intervenante, et puis il allait tellement bien. Là, je croyais à sa réinsertion.
Et pourquoi pourquoi le PEP, ça, soudainement, ça, vous l'aviez plus?
Ben, après 2 ans, il faut que tu sortes du programme. Le programme existe pendant 2 ans de temps. Puis là, je leur disais, ne nous laissez pas tomber parce que vous nous avez amené à une réussite. Ils ont dit, bon, on est désolé, vous faites plus partie du programme, c'est 2 ans.
Mais alors, et là, c'est 2 ans. Puis ça, il était adulte à ce moment-là déjà. Hein?
Oui, il était okay. adulte exactement. Il était autour de 24
ans. Ça, c'est une autre chose aussi. Quand on a des jeunes, là, puis des fois, les psychiatres, ils vous préviennent, attention, là, votre enfant, l'année prochaine, là, va avoir 18 ans. Vous ne pourrez plus mm-hmm. être suivi en psychiatrie jeunesse. Il va falloir recommencer le processus.
Ouais. Il ne faut pas oublier, exactement, excusez-moi de vous interrompre.
Non, c'est aberrant.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'en plus, malheureusement, quand le PEP, là, je vais revenir là-dessus, ils l'ont changé de psychiatre. Puis le psychiatre qui a eu le nouveau, il ne voulait même plus me parler.
Ben, vous êtes juste la mère. C'est normal, Richard. Pourquoi vous voudriez qu'on vous parle? Vous êtes juste le parent.
Oui, ça, on oublie ça, qui est tellement important parce que le milieu familial, c'est nous qui est la première rangée avec l'enfant.
Ouais. Exactement.
Alors, mais ça c'est encore une loi débile, ça, qui dit qu'à 14
débile,
ans,
oui.
Tout ce qui est matière de santé, ton enfant, là, il est tout seul. Tu n'as même plus le droit de poser une question. Là. On va faire chut, madame, ouais. Taisez-vous, là. Mais quand il y a du trouble, par exemple, paye, occupe-toi c'est du ça. Dossier, monte un dossier, va devant le juge, appelle la police. Ça, par exemple, on a la responsabilité, mais on n'a pas un mot à dire.
Oui, tout à fait, parce que quand eux, ils sont dans le trouble, ils m'appellent. Mais quand moi, j'ai besoin d'aide, oublie ça, on ne peut pas vous répondre. Là. Non, on s'excuse, la loi, il y a 18 ans.
Puis là, vous êtes de Montréal, vous, Richard, et si vous êtes à Val-d'Or en ce moment, c'est parce que vous êtes justement en train de régler quelque chose dans ce dossier-là, c'est ça?
Oui, tout à fait. Là, je descends à Rouen cet après-midi, puis là, il faut que j'aille là-bas pour essayer de voir comment on peut faire pour qu'il retourne se faire évaluer à l'hôpital pour qu'il puisse avoir un traitement.
Et pourquoi il est dans... Pourquoi il est
Parce
là?
Que présentement, il est en psychose depuis au moins 1 an. Puis on s'en occupe pas, puis là, lui, comme il prend plus sa médication, il est retourné à s'auto-médicamenter avec du cannabis.
Ah, oh hey, super idée.
Là, ben,
hein? Super idée, le cannabis. Juste en précision. Super idée, bravo. Super. Merci beaucoup d'aider nos enfants. Merci beaucoup.
Oui, exactement. Puis là, avec la loi du cannabis, ben là, lui, il me permet de me dire ben là, maman, voyons, c'est légal maintenant. Je peux me médicamenter avec ça.
Mais bon. C'est bizarre parce que moi, ça fait quand même. Puis je passe pour la fille qui est contre là, la nouvelle loi. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Je suis parent, j'ai des jeunes, puis oui, c'est un enjeu, je pense, dans notre société, parce oui. que, tu sais, on en avait-tu vraiment besoin, hein, comme dirait mon collègue ici. J'écoutais Pierre Curzi dernièrement à l'émission de Paul Arcand qui disait à quel point cette loi était inutile, inutile parce qu'ils regardaient le dernier sondage, puis il y avait comme plus de 80% des Québécois qui disaient qu'ils fumaient pas, puis qu'il y en avait qui... Bon, Patrice Lagacé, qui était avec lui dans la commission, disait, ben, peut-être que les gens disent pas la vérité. Peut-être, mais mettons, je pense qu'on s'entend, là. Moi, je connais pas plein de gens qui fument du pot non plus. Je sais pas si... Tu sais, il y en a sans doute, là, qui fument puis qui ont pas de problème. Mais si on mettait... On dit tout le temps, les gens qui font des psychoses, il y en a très, très peu. C'est marginal. Moi, je fais juste ça, parler à du monde qui ont des enfants qui ont fait des psychoses après avoir fumé du pot. Fait que je sais pas si c'est parce que je tombe tout le temps dessus, parce que je les cherche ou parce que je pense qu'il y en a plus aussi qu'ils disent. Il y en a plus qu'on pense.
Parce que même la dernière fois qu'il avait été hospitalisé à Douglas, tout ce qui était là, c'était des jeunes.
Ouais. Richard, bon courage. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci bien. On va s'arrêter ici. Aïe, aïe, aïe. C'est pas drôle. Toutes nos lignes sont pleines et il faudrait qu'on passe une journée au moins à pouvoir entendre tous les témoignages de ceux qui ont besoin d'en parler puis qui ont des vraies questions. J'ai oublié de vous dire qu'il y aurait le 13 mai une petite journée là, pour jaser de consultation sur la santé mentale des jeunes. Une journée. Il me semble que c'est pas beaucoup.
Puis c'est fermé en plus, c'est pas tout le monde qui est invité, hein. C'est 200 personnes seulement.
Oui, c'est fermé déjà. Il n'y a plus de place. Même si les gens veulent participer, c'est à huis clos.
Mais c'est des conversations. Ça, c'est la ministre de la Santé, Mme McCann, qui organise ça parce qu'elle dit que ça lui tient à cœur, la santé mentale des jeunes. Tant mieux, c'est mieux que le contraire. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on va ressortir de là? C'est comme dans à peu près tous les forums de consultation au Québec. Là.
Bien, on espère faire avancer les choses avec des témoignages de parents comme moi qui se sont suicidés.
Dont les enfants sont suicidés, oui. Ou comme Sylvie qui nous appelle. Bonjour Sylvie.
Bonjour Isabelle, bonjour à vos invités. Dans le fond, il y a des petits points qui ont été soulevés depuis le début d'entrevue. Moi, je pense que la base, la grosse difficulté comme parents pour nos enfants, c'est d'avoir un diagnostic. Diagnostic qui va permettre d'avoir des traitements puis des suivis adéquats pour aider notre enfant.
Tout à fait.
Moi, c'est ce qu'on a vécu. Il a fallu se rendre au tribunal, il a fallu qu'il y ait des ordonnances de la cour pour qu'elle puisse être hospitalisée. Parce que comme tantôt vous avez dit, Isabelle, c'est ridicule qu'un enfant de 14 ans ait tous les droits quand il va pas bien. Nous, on a rentré notre fille à plusieurs reprises à Charlemagne parce qu'elle s'automutilait, s'auto-strangulait.
À quel âge?
Elle voulait mourir, 14 ans. Charlemagne, ben écoutez, il la garde pour la nuit, puis le lendemain matin, ben votre fille, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de danger, elle sort.
Comment ils peuvent. Sylvie, leur avez-vous demandé, j'en suis sûre que oui, là. Oui. Comment ils voient ça, sans évaluation, sans... Comment il voit ça? Moi, c'est toujours la question de bien. C'est-tu marqué dans sa face qu'elle va pas s'en... Voyons donc. Comment ils peuvent être sûrs de ça? C'est clair qu'il en échappe.
Écoutez, c'est après une entrevue de 15 minutes avec la psychiatre le matin qui connaît pas le dossier, qui décide que ma fille, il n'y a pas de danger, elle peut sortir, elle va être correcte. Et ça recommence une semaine après, tu la renvoies, tu recommences... Nous, on a exigé un hôpital à l'extérieur de la Montérégie qui était spécialisé en psychiatrie jeunesse. Il a fallu demander une dérogation parce que c'était sur l'île de Montréal. Il a fallu se battre au tribunal. Il a fallu, puis tu sais, elle rentre. Puis quand elle rentre à Charlemagne en attendant qu'elle puisse être transférée, parce que ça aussi, hein, pour qu'elle s'en aille dans un hôpital spécifique qui ne fait pas partie de ton territoire, ben il faut que tu envoies l'enfant dans un hôpital, mettons, Charlemagne, et que là, tant qu'il n'y a pas de place à l'endroit où tu veux l'envoyer, elle doit résider à Charlemagne. Mais quand elle rentre là, eux autres, ils disent, bien, si on n'a pas le choix, c'est une ordonnance, ça ne fait pas trop leur affaire. Puis tu dis, elle a eu un diagnostic de TDAH quand elle était jeune, je pense qu'ils donnent ça à tout le monde, mais que finalement, la médication, ça n'a jamais aidé, Fait que tu sais qu'il y a quelque chose, là. Tu sais qu'il faut qu'elle soit traitée, qu'il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'elle a. Mais pour ça, il faut qu'elle soit apaisée pour être capable d'avoir un diagnostic. Puis pour être apaisée, mais il faut qu'elle soit dans un milieu hospitalier où elle va recevoir des soins. Fait qu'il a fallu se battre. Fait que j'entends des histoires, tu sais, on voit tout ce qui se passe, là, les articles qui sortent. C'est un fléau. Puis le système, il n'est pas équipé pour l'instant. Puis il y avait Dr. Carman qui donnait une entrevue à votre station cette semaine, ou la semaine passée, je ne me souviens plus. Puis ce qu'il disait, maintenant, en tout cas supposément, quand ça touche vraiment schizophrénie, dépression et tout ça, ils ont les services. Mais quand on tombe dans des diagnostics...
Il disait, effectivement, je l'ai entendu aussi, puis il disait qu'il y avait toujours quelqu'un, un psychiatre de garde à Sainte-Justine, entre autres.
Mais... Ouais, mais moi, c'est pas Sainte-Justine. Nous, on est à Rivière-des-Prairies.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a de la vraie maladie psychiatrique, à la limite, ils ont les services, ils vont les prendre à la main, en main. Mais quand ton enfant, c'est pas une maladie pour eux autres qui est psychiatrique, mettons, trouble de personnalité limite, ben pour eux, c'est pas bon qu'elle soit hospitalisée, mais c'est parce qu'il faut, on peut-tu l'hospitaliser pour savoir qu'est-ce qu'elle a?
Mais dis, le fameux TPL, là, le borderline, le trouble de personnalité limite, il y a bien des psychiatres là, qui refusent ça, là, qui considèrent que c'est pas un diagnostic de santé mentale. Là. Ils sont pas sûrs. Ben, puis quand on n'est pas sûr, on dit c'est un trouble de personnalité limite, mais ça veut dire quoi? Là?
Il y a peu de
ou un trouble de comportement.
Ou un trouble de comportement.
Un trouble de comportement.
Trouble de l'humeur.
Que l'enfant, ouais, exactement, que l'enfant n'a pas besoin d'aide. Ouais. Mais nous, il a fallu se battre. La personne qui a parlé avant moi, les termes qu'elle a employés, c'est tellement vrai. Puis moi, je viens pas du milieu juridique.
Oui.
J'ai fait un cours d'avocat 101 pour les nuls en dedans dans la dernière année parce que j'ai été au tribunal à répétition. Puis on n'a pas terminé encore. Et
donc est-ce que votre fille Sylvie, elle la prend sa médication ou vous êtes toujours obligé là d'aller chercher?
On a eu les services finalement. On a eu les services de thérapie parce que les traits de personnalité limite, c'est pas de la médication qu'il faut. C'est de la thérapie, c'est de la rééducation.
Mais souvent, des fois, il faut au moins de la thérapie et parfois de la thérapie et de la médication.
Oui. Ben, elle a une médication, mais que c'est pas axé. C'est vraiment pour calmer, comme on dirait, son volcan. Oui,
tout à fait.
Mais,
quel âge a-t-elle aujourd'hui?
Elle a 14 ans.
Elle a toujours, OK.
Et ça a débuté à l'âge de 12 ans et demi, 13 ans.
Okay.
Mais quand elle est rentrée à l'hôpital, ben justement, les médecins, tu poses des questions. Ben madame, une fois une autorisation.
Oui.
Elle a 14 ans.
Ben oui, clairement. Ben oui. Merci beaucoup, Sylvie. J'ai Marie-Josée là, qui nous appelle, qui est intervenante en santé mentale. Bonjour, Marie-Josée.
Bonjour.
Là, vous entendez tous les témoignages. Qu'est-ce que ça vous donne envie de nous raconter, vous, ce matin?
Bien, en fait, je pourrais vous raconter des choses pendant une semaine, mais moi, c'est pas le but de mon appel. Moi, pour vous dire, là, moi, je suis une intervenante professionnelle, éducatrice spécialisée, qui est reconnue par Suicide Action Montréal pour mes évaluations par le ministère de la Santé. En fait, tu sais, c'est comme... moi, j'écoute ça, puis je vous dirais qu'en 2012, moi, j'ai milité dans ce domaine-là, parce que moi, vous m'avez dit intervenante en santé mentale, mais et toxicomanie.
Oui.
Puis j'ai travaillé beaucoup dans des centres, depuis 18 ans, dans les centres de traitement, où on va traiter les deux. Moi, je suis prête à... Puis ce que vous dites sur la loi P38, là, OK, ordonnance de traitement, mais il y a aussi ce qui existe, l'ordonnance d'hébergement. Juste pour vous raconter une petite anecdote rapidement qui m'a frappée dans ma carrière. J'ai une jeune femme qui s'automutile dans la salle de bain. Ça prend tout pour débarrer la porte, la sortir de là. Elle a fait des tentatives de suicide récentes en moins de 16 jours. Nous, on tente de lever un P38. On n'y arrive pas parce qu'on est dans la région des Laurentides. Maintenant, je suis à Montréal. Dans la région des Laurentides. Et la Sûreté du Québec, souvent, ont des réticences à lever un P38 parce que ça doit mobiliser un policier pour pouvoir accompagner la personne et non pas les effectifs. Donc, ils nous ont supplié de ne pas lever un... Ils nous suppliaient, on faut se battre pour lever un
P38. P38, là, c'est vraiment l'ordonnance là, d'intervention, l'ordonnance, là, ouais,
oui,
de traitement.
Ouais. Exact. Donc, la jeune femme se retrouve à l'hôpital de Saint-Jérôme en psychiatrie. Le lendemain matin, elle nous est retournée. Fait que il y a plein de situations, mais je vais laisser les parents raconter toutes ces situations-là. Moi,
Merci beaucoup, Marie-Josée. On doit surtout aller à la pause. Je suis désolée. On revient tout de suite après. Moi, je suis désolée. Je vais être obligée de juste faire 5 minutes parce que c'est tout le temps qui nous reste. Mais visiblement, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de temps pour essayer d'aider tous les gens qui veulent nous parler, nous raconter un peu de leur histoire. Mélissa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi, j'ai deux garçons autistes et mon plus jeune, en 2016, donc dans ce temps-là, il avait 10 ans, a exprimé très clairement son désir de mourir. En fait, il y avait un plan concret. C'était pas la première fois qu'il s'exprimait ici, mais cette fois-là, c'était très clair. Là, les détails, tout le pourquoi, quand, comment, tout ça, là, c'était établi. Donc, on s'est rendu à Sainte-Justine. Moi, je suis dans la Naudière. Puis, à Sainte-Justine, ils nous ont gardés pour la nuit, sans vraiment voir quelqu'un. Là, c'était comme on nous gardait sous observation. Puis, le lendemain matin, on a rencontré la psychiatre avec une intervenante sociale, je crois. Puis, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas nous, en fait, nous aider parce qu'on n'était pas sur leur territoire. Donc, OK. Ouais. Là, ils nous ont demandé, est-ce que ça va retourner à la maison? Mais en fait, c'était comme pas vraiment un choix. Là. C'était comme, on doit vous retourner. Là. On va envoyer votre dossier, le dossier de votre fils au CLSC. Bon, donc là, on est retourné à la maison. Puis, en fait, deux semaines après, j'avais rappelé plusieurs fois, mais deux semaines après, on m'a rappelé pour me dire que mon fils ne se qualifiait pas pour rencontrer un pédopsychiatre.
Parce que? Mais, pourquoi il ne se qualifiait pas?
C'était pas, j'imagine, assez important. Là. Ils m'ont pas donné
Ça, voyez-vous, c'est ça, là, encore. Là. On revient toujours à ça. Mélissa, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Sylvie, ce qu'on dit avec Nathalie et Lucie en studio, c'est comment ils peuvent savoir que c'est pas comment? Important. Comment, et c'est ça votre pétition, Nathalie, là, c'est comment évaluer la dangerosité? Comment peut-on savoir ça? Moi, ça me dépasse. C'est-tu marqué dans notre front? Clair.
C'est pas parce que le danger n'est pas imminent sur le moment qu'il va pas l'être dans deux heures ou demain ou la semaine prochaine.
Oui, parce qu'étant, mon garçon, il est autiste, il a un trouble d'anxiété généralisé aussi, très impulsif. Donc, c'était très clair, là. Il y avait vraiment sa méthode, là, clairement identifiée. Donc, en fait, ça a pris, ça a été un parcours du combattant, honnêtement, là. Ça a pris 2 ans avant qu'on ait de l'aide pour ça. 2 ans.
Moi, je pense que ce monde-là, là, qui évalue, là, ils connaissent personne qui a des problèmes de santé mentale.
Ils sont pas bien formés.
Ils ont jamais ressenti ce que ça fait de rentrer chez toi puis d'avoir peur qu'en allant dans le sous-sol, tu trouves ton enfant pendu.
Ben moi, je pense que ce serait le
temps. Je peux pas croire. Sinon, c'est un manque d'humanité et pour le moins de professionnalisme.
Oui, la bureaucratie, parce qu'en fait, mon garçon étant autiste, là, il disait tout le temps santé mentale, ah ben non, on ne peut pas le prendre parce que là, il est autiste, parce qu'on n'a pas des spécialistes formés en autisme. J'ai dit, OK. Là, au centre de réadaptation, ben là, c'est un dossier de santé mentale.
Ah, oh, mon
là,
Dieu!
Là, ils se sont échangés la balle.
Arrêtez, j'ai mal au cœur. Arrêtez.
Ben, oh, mon Dieu! L'enfer, là.
Mais les histoires de territoire, de dossiers, de
pourtant, on est une seule province. On devrait tous avoir des soins adéquats et professionnels, peu importe la région où ce qu'on est.
Je pense qu'on est rendu de faire... on doit vraiment faire une refonte de notre système de santé mentale au Québec. Ça presse, ça urge. Et c'est important parce que les familles, les personnes qui souffrent, tout le monde en souffre. Hein. Vous savez, quand on ne fait pas soigner notre enfant, puis qu'il souffre, nous autres aussi, on souffre.
Clairement, clairement. Merci beaucoup, Mélissa. Merci de votre appel. Nathalie, d'ailleurs, vous me disiez, Nathalie Renaud, que vous-même, aujourd'hui, c'est vous qui avez aussi des problèmes.
Oui, le décès de ma fille a eu des répercussions sur ma santé. Je suis rentrée à l'hôpital parce que je faisais 200...
Votre propre santé mentale?
Oui, ma propre santé, oui. J'ai fait... je suis rentrée à l'urgence parce que ma pression était rendue à 242. Et puis, après avoir passé tous les tests, ça a pris 24 heures. Puis, je savais de quoi je souffrais. Pourtant, ma fille, ça a pris 6 ans, puis on n'a jamais su de quoi qu'elle souffrait. En 24 heures, j'ai passé un électrocardiogramme, une échographie. J'ai passé la nuit à l'hôpital. On m'a pris des milliers de prises de sang, de prises d'urine. Et j'ai su que je faisais de la haute de l'hypertension. Puis c'était circonstanciel au décès de ma fille. Et la semaine plus tard, j'ai fait des crises de panique.
Mais c'est parce qu'on n'a pas l'impression que la santé mentale, que ça fait partie du corps. On a l'impression qu'il faut croire qu'il croit que la tête, c'est désincarné. Je ne sais pas.
Exactement.
C'est-à-dire que si vous avez un problème de cœur, on va dire, si ça saigne, on sait ce que c'est. Mais la santé mentale, c'est dans la tête.
C'est ça. La maladie mentale doit être traitée comme toute autre maladie physique du corps humain.
Exact.
Parce que la maladie du cerveau, la maladie du cerveau, c'est une maladie qui ne se voit pas. Ce n'est pas écrit sur ton front. Fait qu'on dit, puis encore de nos jours, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de tabous face aux gens qui disent « ben moi, je souffre de ci, je souffre de ça ».
Les gens le disent pas.
Les gens le disent pas, puis les gens n'en parlent pas. Fait que nous, moi, je travaille au Centre de soutien en santé mentale, puis on travaille autant avec les familles et les personnes atteintes. Et moi, j'y vais souvent chercher des ordonnances d'évaluation psychiatrique, mais moi, on prend les familles, on les suit tout le temps, mais il faut que les gens signent la pétition parce qu'il faut que ça change les familles. On a besoin d'être écoutés, on a besoin d'être pris en charge, nous autres aussi.
La pétition, elle a un long titre, mais c'est important de bien le noter. Clarification de la notion de dangerosité pour les ordonnances de traitement obligatoire. Où est-ce qu'on la trouve?
sur le site de l'Assemblée nationale.
Donc, si vous voulez signer ça...
Ou sinon, les gens peuvent aller sur mon Facebook.
Ce soir, oui, votre Facebook, Nathalie Renaud. Soir, il se trouve qu'à l'émission Zone Franche, que je co-anime avec Raed, on parle justement de drogue, de légalisation de toutes les drogues. On a un psychiatre qui est avec nous, c'est ce soir, 20h. Je sais que vous allez l'écouter.
Oui.
Alors, merci beaucoup d'avoir été là, toutes les deux. Merci bien.
Merci beaucoup.
Ah, beau témoignage de bien des gens, là. On se retrouve après les nouvelles.